tous. Alors, il y en a peut-être qui ont vu l'image pour parler du séminaire et puis ils vont se dire c'est pas le même mec. Hein. Mais en fait, la photo date de quand j'étais jeune, il y a 6 mois. Donc, j'avais les cheveux plus courts et moins de barbe. Mais voilà, je suis content d'être à nouveau là, dans cette église, et puis de vous retrouver, et en même temps de voir de nouvelles personnes, j'espère, qui nous viennent aussi d'autres assemblées pour qu'on puisse partager autour du prophétique, et puis qu'on passe une très bonne journée, non seulement les uns avec les autres, mais surtout avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui là. La personne la plus importante dans ce qu'on va pouvoir vivre au niveau du prophétique. Et comme disait Bernard, c'est découpé en 4 sessions avec une ce matin, dans laquelle je vais développer qu'est-ce que le prophétique, vraiment aller dans un peu la définition. Ça... En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à dire, donc je vais essayer de ne pas trop vous... étouffé avec trop d'informations, mais en même temps, l'idée, c'est d'être quand même assez, pas scolaire, mais en tout cas, d'être assez précis pour savoir où on va, que dit la Bible. Et l'essentiel, c'est ensuite de passer cet après-midi dans le comment ça marche et de pratiquer aussi. À la fin de la session ce matin, on aura un temps... par petits groupes, on pourra partager les uns les autres qu'est-ce qu'on a déjà vécu, qu'est-ce qu'on pense, etc. Et puis, cet après-midi, après la deuxième session, il y aura un temps où on va s'essayer au prophétique. Et donc, la session à 19h ce soir, ça va être sur l'art, mais aussi et en particulier sur la louange prophétique, avec Karel qui nous amènera... dans l'enseignement et dans la pratique aussi de la louange prophétique. Donc ça va être un mélange d'informations et aussi de mise en route. Donc je pense que ça va être très bon pour tout le monde. Alors, pourquoi moi je suis là ce matin? Je pense que la principale raison pourquoi je suis là ce matin à parler devant vous, et je pense... ouais, la plus importante, c'est parce que je vous aime. Et c'est l'essentiel du prophétique, c'est d'aimer les autres. Parce que si on va pour dire des choses, si on va pour pratiquer dans les dons spirituels sans amour, c'est pas que on va mal faire les choses, c'est qu'on risque de faire du mal. Et dans tout ce qu'on veut faire, dire et vivre en tant que chrétien, dans le témoignage de nos vies et dans le surnaturel, si on manque d'amour, on risque de faire plus de mal que de bien et de vouloir se passer avant de faire passer les autres. Et je pense que c'est déjà un élément crucial. C'est avec quel cœur on fait les choses. Et voilà, moi je suis prêt si Dieu vient me dire il faut que tu meurs aujourd'hui pour qu'un autre vive, moi je dis d'accord, il n'y a pas de souci, que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas. Parce que l'amour va jusqu'à ce sacrifice-là. C'est l'exemple de Jésus, c'est l'exemple qu'on doit suivre. Et finalement, dans tout ce qui est la vie par l'esprit, ça doit être vécu comme un sacrifice pour l'autre, par amour, avant d'être quelque chose qui est le surnaturel, le waouh, c'est grandiose. La base, le départ, c'est d'aimer l'autre, plus que soi-même. Alors, c'est quoi le prophétique? Dans cette session, je vais dérouler des éléments bibliques, forcément, puisque c'est ça le principal. Il y a vraiment, voilà, j'ai une dizaine de pages, j'ai plein d'infos. Il y a beaucoup de versets, parce que je n'ai pas envie juste de raconter des trucs que j'ai pu vivre. L'essentiel, c'est que dit la Bible. quelle est la vérité biblique qu'on peut retrouver. Et donc, voilà, vous pouvez prendre des notes, c'est bienvenu. C'est aussi enregistré si vous voulez après retrouver des éléments. Moi, j'ai des notes un peu, c'est du vrac, je ne peux pas trop fournir ces choses-là. Et la première question que je voulais poser, c'est qu'est-ce qui différencie un chrétien d'un non-chrétien au regard du monde ? Et il y a ce verset dans Actes 17, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et ce verset nous interpelle sur le sens de bouleverser le monde. Alors, qu'est-ce qui fait que les chrétiens, en ce moment, bouleversent le monde ? En France, on a notre morale. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des idées de dire « Ah oui, les chrétiens, ils font bouger les choses de telle ou telle manière ?» Comme ça, spontanément, vous dites « Les chrétiens, ils font quoi qui bouleversent le monde aujourd'hui en France ?» Comment ? Il y a des guérisons, mais bon, c'est par l'amour, par la grâce de Dieu. Ça, c'est des choses qu'on donne. Mais est-ce qu'on a l'impression que ça bouleverse le monde au point que la société dit « Oh là là, il y a un chrétien qui arrive, c'est lui qui bouleverse le monde ?» Pas encore. Alors on peut dire oui, on est impliqué dans le caritatif, dans l'entraide, mais les non-croyants aussi. Alors, l'attitude, c'est très très important d'avoir une bonne attitude envers les autres. Je connais des non-chrétiens, non-croyants, qui ont des attitudes bien meilleures que des chrétiens. On peut dire l'éducation, toute une période pendant des siècles, le christianisme a été un point important de l'éducation. Mais après, on bouleverse comment ? Alors la prière va faire bouger les choses, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais au final, moi, si je vous dis qui bouleverse le monde actuellement, je ne sais pas quel nom peut venir. Greta Thunberg, par exemple. Ah bah, elle fait bouger les choses. On la voit partout, elle est partout. Mais est-ce qu'on peut mettre le nom d'un chrétien en disant lui, il bouleverse le monde ? C'est compliqué. Donc j'ai l'impression qu'on est dans une époque en France en ce moment où il n'y a pas grand-chose qui bouleverse la France de manière suffisante pour que les non-chrétiens se disent « les chrétiens font bouger les choses ». Et c'est une manière de nous interpeller à dire « est-ce qu'on est suffisamment dans ce que Dieu nous demande d'être et de vivre ?» Ou est-ce que finalement on passe, c'est bien, on prie pour les gens, on dit des belles choses, mais ça ne secoue pas les choses, ça ne bouleverse pas, ça ne retourne pas la société, on n'est pas visible au point que les gens se disent ils bouleversent les choses. Et les premiers chrétiens étaient comme ça. Et on est appelé aussi à continuer cette œuvre. Jésus, il est venu, il a bouleversé les choses. Et on est aussi appelé à bouleverser les choses. Alors la question, c'est comment est-ce que, à l'époque des Actes, ils ont bouleversé les choses ? Dans Actes 17, il est écrit « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. » Et là, forcément, c'est l'annonce de l'Évangile, la proclamation de Christ, qui est la pierre angulaire, on va dire, du fait de bouleverser le monde, d'aller proclamer la vérité de la bonne nouvelle. Mais on peut parler beaucoup, on peut le dire beaucoup, sans que ça change forcément les choses. Et donc, ce fameux verset, c'est les gens de Thessalonique, justement, dans ce chapitre-là, qui finissent par dire « Oh, là, Paul et Silas, là, ils font partie de ceux qui ont bouleversé le monde, et ils sont venus jusqu'ici. » Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus jusqu'ici, ça veut dire qu'ils ont bouleversé le monde quelque part, et puis en venant jusqu'à Thessalonique, ils n'ont pas cessé de bouleverser le monde. Ça veut dire que de Jérusalem, sur toutes les villes dans lesquelles ils sont passés, ils ont bouleversé le monde. Et en route, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Pentecôte, c'était le début du bouleversement. Ils ont proclamé la parole dans des langues qui étaient inconnues, ça c'est du prophétique. Ils ont proclamé la bonne nouvelle, ils ont délivré des personnes qui étaient sous l'emprise de démons, ça c'est du prophétique, il faut discerner les esprits et puis prendre autorité. Ils ont été libérés de prison par des tremblements de terre, ils ont guéri des malades, il y a eu des miracles. Et dans Actes 14, on lit « Ils restèrent assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rend des témoignages à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. » Donc en fait, la proclamation de l'Évangile, qui est l'essentiel, était vraiment appuyée par des prodiges, des miracles, des choses qui sortaient du naturel et qui venaient démontrer que ce que les chrétiens prêchaient était la réalité. Démontrer qu'il y a un monde spirituel, démontrer l'autorité, la toute-puissance de Jésus-Christ. Et finalement, comment est-ce qu'ils ont bouleversé le monde? C'est en prêchant avec le Saint-Esprit qui agissait dans le surnaturel. Et si on prêche et que les démonstrations ne sont pas là, il va y avoir une efficacité moindre à notre prédication. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'ils ont réalisé leur mission qui a bouleversé le monde. Et dans Actes 16, 6, il est dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. » Et puis, trois versets plus loin, « Pendant la nuit, Paul eut une vision. » Et un Macédonien qui lui apparaît. Et on voit comme ça petit à petit que comment Paul et les autres ont réalisé leur mission, c'est en étant connectés à l'Esprit-Saint pour recevoir des directions très précises, dire « va là, va pas là, il se passe telle chose », avec une vraie vie prophétique. Et c'est elle qui les a guidés à aller dans les bons endroits, à dire les bonnes choses, à réaliser les miracles et prodiges que le Saint-Esprit voulait réaliser. Donc finalement, la bonne nouvelle se répand grâce à la parole, mais aussi grâce aux interventions surnaturelles et en particulier à l'inspiration prophétique. Ça, c'est, on lit les actes, on lit les épîtres, et c'est ce qui ressort vraiment de manière forte. Alors au-delà de ce qui nous est rapporté comme ça, on va aller un petit peu sur de la définition, pour savoir un peu plus de quoi on parle. Ce prophétique était là très présent tout au long des actes et de tout ce qui nous est dit des débuts de l'Église. Et sur quelle définition on peut se baser pour comprendre ce que c'est? Alors, dans le dictionnaire, c'est marqué que le prophétique, c'est annonce d'événements futurs par une personne sous l'inspiration divine. Et par extension, annonce d'événements futurs par voyance, ou pressentiment, ou conjecture. Donc c'est très large. Forcément, on ne va pas retrouver exactement la même définition dans la Bible. Dans la Bible, qu'est-ce qui se passe? On a 582 fois le terme prophétie qui est utilisé. Ça fait quand même beaucoup, sans compter toutes les fois où on parle de choses prophétiques sans que le terme y soit vraiment. Et on le voit à peu près 380 fois dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire à peu près tous les 60 versets. Et dans le Nouveau Testament, à peu près 200 fois, donc à peu près tous les 40 versets. Donc c'est simplement pour dire, le prophétique, c'est pas parce que Jésus est arrivé que bon, il a réalisé toutes les choses et puis que ça a disparu. Au contraire, c'est comme si les choses deviennent plus importantes, la vie prophétique devient plus importante. Et on va comprendre pourquoi. C'est parce que Dieu, dans la Nouvelle Alliance, ne va pas choisir quelques personnes très spécifiques, mais veut se répandre sur tout son peuple. Alors, qu'est-ce que nous disent les termes hébreu et grec du prophétique ? En hébreu, c'est le verbe, c'est le mot « navi », qui vient d'une racine, ça veut dire « l'homme qui parle », en gros, « l'homme qui parle ». Donc, le prophète va être celui qui parle, et du coup, de la part de Dieu. Mais des fois, c'est utilisé aussi pour des personnes qui parlent, et Dieu dit « mais il parle, c'est un prophète, mais il parle, mais il dit des fausses prophéties ». Donc, il y a des choses qu'il faut aller creuser pour comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est un homme qui parle, et sous-entendu de la part de quelque chose de supérieur. En grec, on se rapproche du mot français, puisque c'est « prophétesse », qui veut dire « qui interprète les oracles ». C'est comme ça qu'on peut le traduire. Mais si on découpe le mot « prophétesse », ça vient de « pros », qui veut dire « pour », donc quelque chose qui, voilà, qui va être comme... c'est comme on utilise « pro », nous, souvent... comme préfixe en français. Et un autre mot qui est fémi. Fémi, ça veut dire dire ou répondre. Donc, on peut comprendre que le prophète, c'est celui qui va susciter le fait de dire les choses, quoi. Mais si on va un petit peu plus loin, fémi, en fait, la racine, c'est fausse. Ça veut dire la lumière. Et ça vient aussi d'un autre mot qui s'appelle phéno, qui veut dire briller. Donc en fait, on est en train de dire que le prophète, dans le Nouveau Testament, il va être là en faveur de la lumière. Il va être là pour porter la lumière au travers de la prophétie. En définitive, moi j'aurais pu résumer sous une phrase, c'est-à-dire le prophétique, c'est le fait d'apporter la lumière sur une situation en proclamant une parole de la part de Dieu. On peut voir ça comme ça, le prophète est là pour apporter un éclairage, pour apporter une lumière de la part de Dieu. Après, dans la manière dont ça se vit, j'ai été un petit peu plus loin pour avoir une définition un petit peu plus complète. Le prophétique dans la Bible, on pourrait citer beaucoup de versets qui démontrent que depuis le début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, on parle de prophétique. J'ai juste quelques exemples avec Jude 1, 14 qui dit « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, c'est quand même très tôt, a prophétisé en ces termes « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades ». Donc tout de suite on nous dit là Enoch, c'était le septième depuis Adam, il prophétisait. Mais si on va aller plus loin, il y a des passages aussi qui nous parlent d'Abel. Abel qui a prophétisé dans le sens où son sacrifice était quelque chose de prophétique. Donc, c'est quelque chose qui est là dès le début de l'humanité. Et puis, il y a tout un tas de passages qui nous montrent, par exemple, forcément, Moïse qui prophétise beaucoup, l'épisode où l'Esprit vient sur les 70 anciens et il prophétise. Après dans 1 Samuel 10:10 on voit l'esprit qui, il y a une troupe de prophètes et puis Saül qui arrive et puis l'esprit de prophétie vient sur lui, il se met à prophétiser. Et dans Actes 2:30 on lit comme David était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Alors David, on le voit pas vraiment apporter une parole prophétique. Par contre, quand il écrit dans les psaumes, c'est des psaumes prophétiques, des psaumes messianiques. Et est-ce qu'il savait même que ça l'était ? Je ne suis pas sûr. Il ne comprenait sans doute pas toute l'implication. Et des fois, dans la prophétie, on va dire des choses, on ne comprend pas toutes les implications non plus. Et ça peut être vraiment quelque chose de puissant pour un avenir qu'on ne comprend pas, qu'on n'imagine même pas. J'ai un dernier verset juste dans le Nouveau Testament. En ce temps-là, donc dans Actes 11, 27, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc là, on a fait quelques milliers d'années d'histoire et on voit que de partout, il y a des prophètes. De tout temps. Alors la définition, quand on regarde toutes les histoires, beaucoup d'histoires bibliques, la définition que moi je donnerais un petit peu plus large, c'est le prophétique, c'est le fait de recevoir de la part de Dieu des éléments de connaissance permettant de mieux comprendre une situation, qu'elle soit passée ou présente ou future. J'élargis un peu par rapport à la définition du dictionnaire qui disait la prophétie, ça concerne que l'avenir. En fait, non. Ça peut aussi revenir sur des éléments du passé et aussi sur des éléments du présent. Et pouvant permettre de faire des choix en conséquence. Parce que la prophétie ne va pas être là juste pour obtenir une connaissance, mais elle va être là pour que la personne qui reçoit cette parole puisse agir, puisse comprendre, puisse faire des choix qui vont être modifiés ou pour pouvoir se comprendre dans son identité ou pouvoir recevoir des choses de la part de Dieu. Il y a toujours, c'est pas juste une information qui arrive, c'est vraiment Dieu qui veut impacter la vie de celui qui reçoit la parole. Alors, j'ai pas dit en introduction, mais s'il y a des questions qui viennent, vous pouvez me les poser comme ça. Après, vu que j'ai pas mal de choses à dire, peut-être que j'y répondrai plus tard. En sachant que la troisième session, cet après-midi, il y a un temps de questions-réponses. Donc, ça peut être plus simple peut-être de noter vos questions, parce que ça se trouve, je vais y répondre au fur et à mesure. Donc, pour ne pas être coupé tout le temps, à dire je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. Et si je dis un truc pas clair, il ne faut pas hésiter. Alors, voilà, je pense que avec tout ça, on peut établir que la prophétie, la vie prophétique, c'est vraiment très biblique, d'un bout à l'autre. Et il y a Paul qui nous fait la liste des dons spirituels. Donc c'est dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Et je vais vous les citer, il y en a 9. La parole de sagesse, c'est une parole qui va venir comme donner une stratégie par rapport à une situation. La parole de connaissance, elle va venir comme libérer, mettre en lumière, comme on disait, une réalité de quelque chose qui a eu lieu ou qui a lieu. Et c'est différent d'une parole prophétique. La parole de connaissance va permettre de déterminer souvent la cause d'un problème, un événement passé qui a des conséquences sur le présent, etc. Ou même quelque chose d'actuel qu'une personne est en train de vivre, mais Dieu peut révéler en disant « Mais voilà, Dieu me donne la connaissance que tu es en train de vivre telle chose et il voudrait que tu puisses soit changer de comportement ou soit... » Voilà. Donc, plein de choses. Juste pour donner un exemple rigolo, il y a un prophète d'Afrique du Sud qui vraiment, vraiment très connecté, on va dire, qui se retrouvait aux États-Unis à faire un séminaire. Et puis, en fait, il a eu dans son esprit la connaissance de ce que était en train de faire son fils, qui était en Afrique du Sud. Et donc, il lui téléphone et il lui dit « Mon fils, repose cette bière dans le frigo. » Et son fils a reposé la bière qu'il avait prise dans le frigo. Donc, ça peut être aussi précis, ponctuel que ça, dans le fait que Dieu connaît toutes choses. Et quand on l'écoute, on peut recevoir ces choses qui ne sont pas forcément pour l'édification, quelque chose de très... sacré, on va dire, mais dans le quotidien, Dieu veut nous accompagner à être dans quelque chose qui est une connaissance que lui, il a, mais on est, comme je développerai un peu, on est citoyen du ciel, on est rempli du Saint-Esprit, et si on est à son écoute et qu'on apprend à vraiment l'écouter sur tous les détails de la vie, de nos vies, il peut vraiment... communiquer ces paroles de connaissance, la connaissance qui vient du Saint-Esprit. Alors, le troisième don spirituel, c'est la foi, c'est-à-dire la foi qui déplace les montagnes. Oui, on est chrétien, on a foi en Jésus-Christ et tout ça, mais d'avoir une parole de foi sur laquelle on se dit, Dieu a fait une promesse, je m'y tiens et je ne lâcherai pas parce que Dieu va réaliser ce qu'il a dit, etc. C'est un don particulier quand même. C'est une manière de vivre la foi dans un événement, une circonstance précise. Après, il y a le don de guérison, c'est-à-dire on prie pour des guérisons physiques qui sont exaucées régulièrement. Le don d'opérer des miracles, c'est un don où on va pouvoir influencer le naturel. Les miracles, c'est pas... Alors, la guérison physique, c'est un miracle, mais ça peut être de parler, comme Jésus l'a fait, à une tempête, ou des choses comme ça qui sont dans le domaine naturel, opérer des miracles. Et vient le sixième, qui est la prophétie, qui, pour résumer, parle sur l'avenir et les plans de Dieu. Le septième, c'est le discernement des esprits, c'est-à-dire d'avoir la capacité de saisir, de connaître quels sont les esprits qui influencent une personne, un lieu, ou est-ce qu'il y a des anges, est-ce qu'il y a des démons, et qui permet aussi, grâce à cette connaissance, d'être agissant. C'est-à-dire, si on a cet esprit de discernement, ça va nous permettre de voir qu'une personne est influencée ou possédée même par un mauvais esprit, par exemple, et donc d'être efficace dans l'autorité pour libérer cette personne. Ça peut aussi servir à discerner la source d'une parole dite prophétique. Ça, j'en reparlerai. Le huitième don, c'est la diversité des langues, c'est-à-dire la capacité à parler une langue qui nous est inconnue. Et elle peut être une langue humaine, comme on voit à la Pentecôte. Ils parlaient des langues des gens qui étaient venus là à Jérusalem sans les savoir. Et ça peut être, très souvent, une langue qui est céleste, qui n'est pas parlée par des peuples humains, mais qui est une langue céleste que le Saint-Esprit nous permet d'exprimer. Et le dernier, le neuvième, qui est listé, c'est l'interprétation des langues. Ça veut dire que quelqu'un va pouvoir parler comme ça une langue qui n'est pas humaine, on va dire, une langue céleste. Et une personne avec le don d'interprétation va pouvoir saisir et interpréter. C'est pas de la traduction, c'est de l'interprétation de ce qui est dit. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'apprendre à saisir quand on veut parler en langue, quand on parle en langue, on peut aussi demander à l'esprit de nous révéler ce qu'on est en train de dire. Et ça peut être une manière d'interpréter les langues, de se dire, bon, ça fait une demi-heure que je prie en langue, mais qu'est-ce que je suis en train de dire finalement? Et des fois, c'est très bénissant de savoir pourquoi on est en train d'intercéder. Et voilà, c'est aussi une manière de vivre ce don spirituel. Alors, dans ces 9 dons spirituels, il y en a 4 qui sont particulièrement de la prophétie, c'est-à-dire des connaissances qui viennent surnaturellement. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie et le discernement des esprits. C'est-à-dire des connaissances qui vont nous arriver par le Saint-Esprit, des choses qu'on ne peut pas connaître humainement. Et c'est en cela que ça va être vraiment qualifié de prophétique. L'interprétation des langues peut aussi être prophétique dans le sens où on va interpréter et donc délivrer de manière intelligible la parole que le Saint-Esprit a proclamée en langue. Alors la très grosse question, c'est est-ce que ces dons spirituels existent? Est-ce que ça, c'est une liste que Paul a faite pour les Corinthiens? On a des exemples dans le Nouveau Testament, mais la grosse question, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Parce que si déjà on n'est pas d'accord là-dessus, si on dit que ça s'est terminé, on peut rentrer chez nous. Voilà, parce que après ça ne sert plus à grand-chose d'aller creuser bibliquement ce qui s'est passé il y a 2000 ans ou plus, si finalement on ne peut pas en retirer des choses pour notre vie d'aujourd'hui, quoi. C'est, l'objectif, ce n'est pas de faire un enseignement ici juste académique et scolaire, mais vraiment de saisir qu'est-ce que l'Esprit veut qu'on vive dans notre vie avec lui. Alors il y a plusieurs pistes D'abord, c'est quoi le mode d'action dans la Nouvelle Alliance? Il y a tout l'Ancien Testament où on voit à quelques endroits des troupes de prophètes, des écoles prophétiques, mais sinon c'est majoritairement un prophète sur Israël qui va délivrer des choses, même si quand on regarde Jérémie et d'autres, il y a des prophètes qui ne vont pas forcément prophétiser la bonne chose, les bonnes choses au roi de Juda ou d'Israël. Donc, il y a eu quand même toutes ces périodes-là, pas toujours un prophète unique, mais quand même un qui portait particulièrement la parole pour tout le peuple. Et Jésus nous donne l'exemple dans la Nouvelle Alliance. Il explique que, enfin, il vit et il explique qu'il fait ses œuvres, pas par lui-même, mais par le Saint-Esprit. Alors, ça commence avec le baptême, son baptême, le baptême de Jésus, où il est en même temps baptisé d'eau par Jean-Baptiste, et en même temps baptisé du Saint-Esprit avec la colombe qui descend sur lui. Et Jésus dit, dans Jean 5, 19, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Donc là, il est dans une dépendance au Père. Et dans Jean 14, 10, il dit « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et Jésus est en train de dire, il est en homme sur terre et ce qu'il fait, ce qu'il va faire dans ses œuvres vient du Père au travers du Saint-Esprit. Et les œuvres qu'il va réaliser, il dit que ce soit un moyen pour vous de croire en moi. Donc ce mode d'action de la Nouvelle Alliance, c'est vraiment de vivre au travers du Saint-Esprit, cette connexion au Père, qui permet que ce qu'on vit témoigne de la vérité de ce qu'on dit. Jésus était lui-même prophète, forcément. On voit à quel point il parle sur la destruction du temple, la destruction de Jérusalem, les paroles de connaissance qu'il a par rapport à, par exemple, la Samaritaine. Ah oui, bah, tu as eu 5 maris, et puis celui que tu as en ce moment, c'est pas ton mari. Là, c'est une parole de connaissance, typiquement. Donc, Jésus montre l'exemple, non seulement dans ce qu'il vit, mais dans ce qu'il dit. Il dit, regardez comment je vis, c'est l'exemple qu'il faut suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Les premiers pas avec les chrétiens. Jésus envoie, premièrement, les 12. On lit ça dans Luc 9. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades. Donc, il investit les 12, les apôtres, de cette autorité, de cette puissance, d'aller agir comme lui le faisait, au travers de on peut rapprocher ce qu'ils ont fait de certains dons spirituels, c'est-à-dire ben, ce discernement des esprits avec l'autorité qui va avec pour prier pour que les démons s'en aillent, la capacité de le don de guérison, donc d'opérer des miracles. Et puis ensuite, il ne s'arrête pas juste à ses apôtres, il renvoie dans Luc 10 70 disciples. Après cela, on lit dans Luc 10, 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc ce n'est pas les apôtres et d'autres, c'est vraiment en plus. Il élargit le cercle. Hein. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il disait, verset 9, « Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Donc Jésus n'était pas encore parti, qui dit à ses apôtres, enfin c'était les 12 disciples, et à ceux qui le suivent, « Eh bien, faites comme moi. » Voilà. Vous n'avez pas encore la possibilité de recevoir le Saint-Esprit comme ça va être fait après la Pentecôte, mais bah, Dieu, enfin, Jésus transmet déjà une autorité qui vient de lui et ils se mettent en marche en réalisant deux choses. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous et guérissez les malades. Donc vivez, proclamez et vivez les surnaturels qui va démontrer la vérité de ce que vous dites. Ensuite, Jésus prévoit ce qui va se passer une fois qu'il va être parti. Donc dans Jean 14, 16, il dit « Moi je prierai le Père, il vous donnera une autre aide afin qu'il soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » C'est-à-dire que le même baptême que Jésus a vécu, avec ce baptême du Saint-Esprit, Jésus dit ben, « Vous, mes disciples, vous allez aussi recevoir cette puissance-là, agissante, et vous irez comme moi pour proclamer et pour démontrer. » Et dans Actes 1, 8, il redit la même chose, « Vous recevrez une puissance. » Le mot « puissance » là dans le grec, c'est « dynamis ». C'est le mot qui a donné en français « dynamite ». Donc c'est pour dire à quel point Dieu veut nous donner une puissance qui bouleverse le monde. L'idée, c'est de dynamiter les œuvres du diable. Et ça, ça bouleverse la société, ça bouleverse les gens déjà, individuellement. Et puis ça a de la répercussion. Quand on agit dans le surnaturel, au travers des dons spirituels, on agit comme cette dynamite qui va vraiment aller faire exploser les œuvres des ténèbres qui va libérer, guérir. Alors, je n'ai pas fini mon verset. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Jésus prépare ses disciples à recevoir la puissance qu'il a lui-même reçue et à faire les mêmes œuvres de la manière dont lui il les fait. Alors on voit Jésus qui réalise des miracles et qui dit aux apôtres qu'ils pourront faire la même chose. Dans Jean 14, 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Alors c'est questionnant parce que quelle œuvre plus grande on pourrait faire que les œuvres que Jésus a faites jusqu'à ressusciter ? Ressusciter des morts, qu'est-ce qu'on peut faire de plus incroyable? Donc ça questionne et certains se disent ben finalement ce qu'on va faire de plus grand, nous, c'est vraiment être à l'œuvre dans la construction de l'Église. On peut lire ça sur un mode, on va dire, beaucoup moins surnaturel, en disant l'œuvre à laquelle on est appelé en tant que chrétien, c'est d'être une pierre de l'Église, de construire l'Église avec qui on est, et de s'arrêter là en disant ben, c'est pas nécessairement ces œuvres plus grandes, on peut difficilement les comprendre comme des œuvres miraculeuses. Mais en fait, c'est pas ça que dit le texte, c'est pas ça que dit Jésus non plus. Et ce que j'aime, c'est justement le terme grec quand Jésus parle ici. Alors, il parlait pas en grec à l'époque, mais c'est la manière dont du coup les évangélistes ont écrit ici Jean a écrit ce verset: vous ferez des œuvres, les œuvres que j'ai faites et des plus grandes. Œuvre, c'est le mot ergon, et ergon c'est ce qui a donné en français énergie. Et là on revient aussi à cet aspect de dynamite. C'est quelque chose c'est de la puissance. On est en train de parler de puissance. Ergon, c'est l'énergie, c'est la puissance. C'est de là que viennent les termes qu'on utilise, voilà, l'énergie du moteur. C'est vraiment ce qui va être le carburant, la puissance qui va faire marcher les choses. Et puis après, moi, j'aurais du mal de tourner ce verset en disant Dieu n'est pas en train de dire qu'on va... finalement, Jésus n'est pas en train de dire ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si je suis clair, mais Jésus dit, vous allez faire ce que je fais. Bon, ben, on va faire ce qu'il fait. Et la seule raison pour dire qu'il n'est pas en train de parler de miracles, c'est parce qu'on est gêné avec le fait d'accepter qu'on peut faire des miracles. C'est une question d'interprétation du texte, et le texte ne veut pas dire, absolument pas dire ici, que Jésus parle de choses naturelles. Comme c'est très sujet à débat, forcément, est-ce que les charismes, les dons spirituels sont pour aujourd'hui ou pas, je prends quelques éléments comme ça, et puis on en discute, et puis si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'on voit ? Ben, que dans la suite du Nouveau Testament, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, les apôtres, les disciples, les premiers chrétiens vivent, font les œuvres que Jésus faisait. Ils guérissent les malades, ils délivrent. Il y a du miraculeux dans le naturel. Et l'usage, on va dire, de tous les dons spirituels que Paul va décrire. On peut juste prendre un texte pour exemple, acte 8, verset 5. Philippe était descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et on a une manière de démontrer et d'interpeller les non-croyants au travers du surnaturel qui est quand même extrêmement efficace, on va dire. Au verset 7, « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. » Et ça, c'est juste un texte, mais on voit à quel point, dans tout ce qui nous est rapporté de la vie chrétienne, dans le Nouveau Testament, il y a cette vie qui mêle le témoignage de la bonne nouvelle et le miraculeux qui accompagne. Alors, on parle là de miraculeux en général, mais le séminaire parle du prophétique. On voit dans Actes 27, 11-27, « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, comme je disais tout à l'heure. » Donc des prophètes, dans la première église, il y avait des prophètes. Acte 15, 32, on en a parlé, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et fortifièrent par plusieurs discours. Et il y a beaucoup de versets qui démontrent à quel point le prophétique était très, très, très présent dans tout ce que le Nouveau Testament nous décrit. Et je tourne ça comme ça parce que si on avait accepté dans le Nouveau Testament des livres qui étaient écrits au IIe siècle et au IIIe siècle et au IVe siècle, je suis sûr que ce serait encore des histoires qui mêlent le témoignage, la prédication avec le surnaturel. Ça ne s'est pas arrêté quand le dernier apôtre, Jean, est mort et que le dernier apôtre avait disparu de la terre. Est-ce que c'est fini 2000 ans après ? Dans Hébreux 1, on lit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Alors, certains disent, voyez, ça y est, Dieu nous a parlé par le Fils. Maintenant, c'est bon, c'est écrit, on n'a plus qu'à proclamer ce qui est écrit, et on n'a plus besoin de pratiquer. Mais en fait, c'est pas la réalité, puisqu'on voit, comme je disais, tous les premiers chrétiens qui vivent là-dedans. Et quand on lit le discours de la Pentecôte, dans Acte 2, Pierre qui dit, tout le monde se met à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas et qui permettent aux étrangers de comprendre, d'entendre la proclamation de la bonne nouvelle dans leur langue. Et je crois que ça devait faire un beau bazar. Et Pierre qui dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, c'est-à-dire à peu près 5e siècle avant Jésus-Christ, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, c'est aussi prophétique, et vos vieillards auront des songes. Alors, la question entre Hébreux 1 et Actes 2, qui parle toujours des derniers jours, c'est quoi les derniers jours ? Puisque dans les derniers jours, tout le monde va prophétiser, dans les derniers jours, Dieu a parlé par le Fils, c'est quoi les derniers jours ? Et finalement, comme dit Hébreux 1, les derniers jours commencent à la venue de Jésus-Christ. Et puisque c'est les derniers, on ne peut pas être après les derniers. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de logique. On ne peut pas être dans les jours plus loin que les derniers jours. Donc Jésus est venu, et les derniers jours, on est toujours dedans. Et donc ce qui est dit ici, dans les derniers jours, vos filles, vos fils prophétiseront, il n'y a aucun moment où la Bible termine en disant « les derniers jours sont finis, vous êtes après les derniers jours », il n'y a pas de sens. Donc ces derniers jours sont par définition l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et finalement, dans ces derniers jours, on est appelé à vivre ce que Pierre était en train de décrire, par ces termes de vivre le prophétique en particulier. Alors, je regarde l'heure, j'ai encore pas mal de choses à dire. Pour les chrétiens et pour l'Église, l'enseignement de Paul nous dit, 1 Corinthiens 14, car vous pouvez tous prophétiser. Je pense que tout est dit, vous pouvez tous prophétiser. Alors comment ça se passe dans l'Église ? Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc là, il y a vraiment, Paul écrit à une église, Corinthe, je ne sais pas combien il y avait de chrétiens à Corinthe, mais et surtout que les épîtres étaient en général destinés à une église qui n'est pas forcément à comprendre en termes d'une église dans une ville, mais vraiment aux chrétiens de la ville et plus globalement de la région. Parce qu'après, les lettres étaient réécrites, retransmises, et puis ça permettait de diffuser l'enseignement des apôtres. Alors là, il est en train de dire à tous les chrétiens, vous pouvez tous prophétiser. Bon, ben, faites-le pas tous en même temps, sinon on va rien comprendre, en gros. Dans ce passage-là d'un Corinthiens 14, il y a des manières, Paul donne des manières pratiques de le vivre. Mais l'essentiel à comprendre là, où on en est, c'est Paul dit clairement, vous pouvez tous prophétiser. Il va dire à Timothée, dans 1 Timothée 4,14, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc c'était une part de la vie de l'assemblée chrétienne, d'avoir des prophéties pour les uns pour les autres, d'imposer les mains pour qu'il y ait des dons spirituels qui viennent dans les chrétiens pour répandre la bonne nouvelle, comme Jésus avait dit, au travers aussi du miraculé et du surnaturel. Donc c'est un enseignement de Paul qu'on ne peut pas mettre de côté. Il est en train d'enseigner toute l'Église possible à prophétiser. Alors, avant d'aller plus loin, comment conclure un peu pour être sûr que c'est vraiment quelque chose d'actuel? Je dirais, nulle part dans la Bible, on a une idée, le moindre concept du fait que cette vie surnaturelle s'arrête à un moment donné. Il n'y a pas un verset qui dit « Dans cette période, plus personne ne recevra rien du tout et le miraculeux aura disparu. » Ça n'existe pas. Il y a une phrase qui était utilisée, je le sais, parce que mon prof de grec l'a utilisée en cours, Éphésiens 2:20, qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ils disent « Voyez, il y a eu les apôtres, il y a eu les prophètes, vous êtes fondés, maintenant il n'y a plus besoin. Les apôtres sont passés par là, les prophètes désigne les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres, ceux qui posaient les fondements du Nouveau Testament. Maintenant, c'est réglé. Ça, c'est la théologie de non-charismatique, on va dire, si ce n'est pas anti-charismatique, en se basant sur ce verset-là. Mais en fait, ce n'est pas ça que dit le passage. Le passage est en train de parler aux Éphésiens et en train de dire les païens, parce qu'il est en train de parler aux païens qui se sont convertis au christianisme à Éphèse. Vous avez été élevés, on va dire, par les apôtres qui sont venus vous enseigner, par les prophètes qui sont venus vous enseigner, de même que les juifs. Le texte est en train de dire vous faites partie, vous n'êtes pas juifs, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Parce que vous avez reçu l'enseignement, vous l'avez accepté, de la part des prophètes et des apôtres qui sont passés vous voir. Et donc l'idée n'est pas de dire que le boulot est fait, définitivement, et qu'on n'a plus besoin d'apôtres et qu'on n'a plus besoin de prophètes. L'objectif de ce texte, c'est de dire aux païens, oui, vous faites partie du peuple de Dieu. Éphésiens 2, 18, donc en fait, juste avant, les versets nous disent, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès au Père, dans un même esprit. Il veut créer l'unité du corps. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc c'est un texte qui nous parle de l'inclusion des non-juifs dans le peuple de Dieu. Alors, ce verset qui nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement. Alors c'est quoi le fondement ? Quel est ce fondement que certains disent c'est fait et puis on a pu en parler. Hébreux 6 nous dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. » Ça, c'est les fondements de la foi chrétienne qui ont été posés. Personne ne les remet en cause. C'est sûr. On est là, on y croit. Ces fondements-là ont été posés par les apôtres, par les prophètes qui sont passés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'apôtres et de prophètes aujourd'hui. Ça veut dire que ces éléments majeurs, d'abord posés par Jésus-Christ lui-même pour la Nouvelle Alliance, ils sont posés. On peut se fonder dessus. Ça ne bougera plus. Il n'y a pas un prophète en l'an 2020 qui va arriver et dire le contraire. Sinon, c'est un faux prophète. Donc on est d'accord avec ce verset. Mais ce verset ne veut pas dire que le job est fini et que 2000 ans après, il n'y a pas besoin que les dons surnaturels viennent nous aider dans notre œuvre pour le royaume de Dieu. Alors, le deuxième élément moi, que je pourrais utiliser, on va dire, pour dire que c'est toujours d'actualité, c'est que l'histoire de l'Église, si on veut prendre les Huguenots et d'autres, de tout temps, on voit que des chrétiens ont vécu le prophétique, ont vécu le miraculeux. Et si on regarde l'histoire de l'Église en Occident, en disant... On a eu un paquet de siècles avec les catholiques qui n'ont pas été dans cette vie du surnaturel, ou pas beaucoup, en tout cas c'est pas ça qui en ressort. Il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres mouvements, d'autres façons de vivre la foi en Europe et ailleurs qui développait, qui vivait ces choses-là. Et puis, je dirais un autre élément, c'est l'histoire très récente de l'Église qui démontre que de plus en plus, sur toute la Terre, les mouvements du Saint-Esprit sont là pour que le surnaturel vienne impacter les vies, vienne démontrer la réalité de Dieu. On parlait de vision tout à l'heure, la vision est quelque chose de prophétique. Le nombre de témoignages de musulmans qui ont une vision de Jésus-Christ qui vient leur dire c'est moi le Messie, c'est incroyable. Et des choses comme ça qui sont de l'ordre du surnaturel, tout simplement Dieu qui vient parler et délivrer sa parole, sa vérité. Et puis voilà, on parle pas, vous allez sur YouTube, des vidéos de guérison miraculeuse sous vos yeux, vous en trouvez. On peut pas dire que tout est à chaque fois de l'ordre de la fiction, quoi. Et puis je pense qu'on pourrait être plusieurs à témoigner aujourd'hui de ce qu'on vit nous-mêmes et de ce qu'on a vu de nos yeux. Et voilà, personnellement, j'ai vu des guérisons miraculeuses sous mes yeux, donc je ne peux pas renier quelque chose que j'ai vu, vécu, expérimenté, qui est en accord avec ce que dit la Bible. J'ai un background scientifique et je discutais récemment avec quelqu'un qui se disait comment on peut être scientifique et chrétien. Je dis mais c'est tout à fait normal, parce que la foi chrétienne et la parole de Dieu peut être scrutée de manière scientifique, c'est-à-dire la science va faire une théorie et donc elle va déterminer qu'un effet va produire une cause. Si l'effet ne produit pas la cause, la théorie est mauvaise. Moi, j'ai fait cette démarche de scruter la Bible et la vie chrétienne avec cette théorie que la Bible dit vrai, que les dons surnaturels sont pour aujourd'hui. Et de cette théorie, on va dire, on va tirer des expérimentations et on va se rendre compte que, en effet, quand on pose un acte et que la conséquence qui est prédite par la Bible arrive, on a scientifiquement prouvé que les choses sont réelles et se vivent encore aujourd'hui. Donc on peut être très... voir les choses de manière intellectuelle, avoir une réflexion qui peut être du type scientifique, même, pour confirmer que les dons surnaturels sont pour aujourd'hui et se vivent parmi les chrétiens et que tous sont appelés à entrer dans cette dimension. Est-ce que, avant de passer à... Ah oui, ça va vite. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, vraiment des trucs qui vous chiffonnent, avant que je passe à la suite? Non? Très bien. Alors, j'ai une deuxième partie. Ce matin, c'est un peu scolaire, on va dire, dans le sens où je décris un peu bibliquement ce qu'on peut comprendre, etc. Ça peut paraître scolaire, mais cet après-midi, je vous invite à être présent parce qu'on va, se poser la question de comment ça marche et on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment vivre le prophétique. Alors, avant ça, j'aimerais aborder la question de à quoi ça sert. Qu'est-ce que les dons spirituels et en particulier le prophétique, à quoi ça sert dans nos vies, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, dans l'Église, dans le monde. Et la première chose, c'est un peu ce que je vous disais en introduction, 1 Corinthiens 12, 7 nous dit « Or à chacun la manifestation de l'Esprit, à chacun. » On n'est pas en train d'exclure certains, à chacun. La manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Donc l'objectif du Saint-Esprit en nous, c'est d'œuvrer pour le bien de nos frères, de nos sœurs, de ceux qui ne le sont pas encore. De manière générale, l'œuvre du Saint-Esprit au travers de nous est pour les autres. Dans Ésaïe 61, passage très connu, on lit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. » C'est vraiment la restauration, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et quand Jésus reprend ce texte en disant « c'est mon œuvre », ça devient aussi notre œuvre. Et donc, au travers de ce que le Saint-Esprit a guidé Jésus-Christ et nous guide, nous, c'est également notre œuvre d'être envoyé, comme Jésus a envoyé tous ses disciples et nous envoie, pour porter la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés et tout le reste, pour apporter la liberté, la délivrance, pour apporter la grâce, pour consoler, pour restaurer, pour renouveler. Toute cette œuvre, Ésaïe 61, Jésus la prend sur lui, c'est lui qui ouvre la nouvelle alliance au travers de sa vie. Et nous poursuivons son œuvre, puisqu'il a dit « vous ferez les mêmes œuvres que moi et plus ». On continue cette œuvre et le but est toujours là. À quoi sert le prophétique ? Ça sert aux autres pour les élever, les restaurer, les guider au travers de ce que Dieu dit. Donc, en Luc 4, 18, comme je disais, Jésus fait de cette prophétie sa propre œuvre. Et ce Saint-Esprit qui est sur nous, nous permet de poursuivre cette œuvre. On a finalement les mêmes prérogatives sur terre que Jésus avait dans cette dimension-là, d'apporter aux autres tout ce qui permet, comme le dit 1 Corinthiens 14,3, édifier, exhorter, consoler. Celui qui prophétise, dit 1 Corinthiens 14,3, il parle aux hommes et aux femmes, il les édifie, les exhorte, les console, et aux enfants, bien sûr. Alors édifier, ça veut dire on va bâtir, élever, construire quelque chose. Le prophétique va permettre d'apporter à celui qui reçoit la parole prophétique une manière de se construire. Ça peut aussi être une parole qui est donnée à une église et même à une entreprise ou une association. Toute œuvre que Dieu veut bâtir, veut construire, une parole prophétique va permettre d'édifier. L'exhortation, c'est-à-dire amener quelqu'un à faire quelque chose par des encouragements. Et la consolation, forcément, ça va être de soulager la personne dans sa douleur, dans ce qu'elle vit. Donc tout ça, c'est à quoi ça sert le prophétique ? Ça sert en particulier à tout cela. Donc il y a quelques objectifs avec des exemples que j'ai notés. Exhorter et affermir, on voit dans Actes 15-32, Jude et Silas, on l'a lu tout à l'heure, qui étaient prophètes, les exhortèrent, les fortifièrent par leur discours. On voit aussi dans Actes 10, verset 19, que ça permet de montrer une direction pour une destinée, de manière globale, ou pour une mission particulière. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision qu'il venait d'avoir, l'Esprit lui dit, voici, trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Là, on voit cette parole prophétique tellement forte, tellement détaillée, tellement précise. Pierre n'a pas besoin d'une sonnette à sa maison. Il y a le Saint-Esprit qui dit, ah, quelqu'un à ta porte. Alors, d'autres manières d'agir, c'est pour avertir. Dans Actes 11, 28, on voit qu'un dénommé Agabus va annoncer par l'Esprit qu'il va y avoir une grande famine. Et puis le verset se termine, elle arriva en effet sous Claude. Donc, on voit que la parole prophétique est là pour dire « Ah, il va se passer quelque chose, préparez-vous ». Et c'est un peu le sujet aussi de Joseph avec Pharaon. Pharaon qui a ses images de vaches maigres, etc. Et la prophétie que Joseph va donner passe par l'interprétation du rêve et permet de prendre des décisions par rapport à ce que... Voilà, Dieu prévient de ce qui va se passer, on va prendre des précautions, on va préparer les choses. Donc on est averti. Et puis aussi, comme je le dis déjà plusieurs fois, un des objectifs, c'est de produire un impact sur les non-croyants. C'est-à-dire démontrer la réalité de ce qu'on proclame. Et on lit dans Hébreux 2, 4, « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Donc il y a cet aspect important. Et je pense d'ailleurs que le miraculeux est vraiment mis à contribution quand on veut aller toucher des personnes qui ne sont pas encore sauvées, parce que Dieu veut vraiment sauver les gens, qu'il veut démontrer sa présence, son amour, sa puissance aussi. Alors, comme le temps file très vite, je ne vais pas donner tous les détails, mais j'aimerais passer sur qu'est-ce que va provoquer comme changement le prophétique. Je vais être assez rapide. Le prophétique est là pour changer les choses. On n'est pas dans un encouragement, une consolation, quelque chose qui va être sur le moment, qui va juste nous faire du bien. On est là pour changer quelque chose. Et qu'est-ce que ça va changer ? J'ai noté plusieurs choses. D'abord, ça va changer nos attentes. C'est-à-dire, ça va changer les projets et notre vision de l'avenir qu'on peut avoir. Mike Bickle, qui est un prophète, un pasteur américain, qui écrit « Une révélation prophétique forte avec des confirmations indéniables donne de la stabilité dans un temps de rude épreuve. » C'est-à-dire que si, par prophétisme, on a reçu une vision de ce que Dieu voulait, si on voit que les conditions sont contraires, si on voit que les éléments ne vont pas dans le même sens, cette parole nous permet de nous baser sur les projets que Dieu a déclarés, sur l'avenir que Dieu a déclaré. Et avec ce verset de Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ça, c'est ce que Jérémie dit là, c'est aux déportés qui sont à Babylone. Il dit, vous êtes à Babylone, j'ai des projets de paix, des projets d'espérance. Et donc, on est là, on peut, nous, dans notre vie, être un peu comme à Babylone, un peu coincé dans quelque part où on n'a pas envie de rester. Et Dieu donne une vision. Alors que ceux qui étaient déportés pouvaient se dire, ça y est, c'est fini, on ne reverra jamais Jérusalem, et etc. Dieu dit, non, non, voilà la vision, voilà le projet. Une autre chose que ça va changer, c'est la vision de l'histoire. La vision de l'histoire, c'est-à-dire révéler ce qui a pu être dans le passé, révéler ce qu'il y a dans le présent, révéler ce qui va venir dans le futur. Et j'ai pas mal de versets qui viennent appuyer tout cela, mais la parole de connaissance en particulier est là pour remémorer quelque chose du passé, entre autres. Hein. Y a Jésus qui dit dans Jean 1, 48, enfin, c'est pas Jésus qui parle, mais Nathanaël qui dit à Jésus, « Mais d'où me connais-tu ? » Et Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Donc il y a cette manière de voir ce qui se passe dans le présent, dans le passé aussi, d'avoir des choses qui nous viennent, qui sont de ce qui a pu se passer. Et on peut changer aussi la vision qu'on a du passé et ça peut libérer notre présent. Ça va changer la vision de l'histoire dans le sens, comme je disais, non seulement de prédire quelque chose du futur, mais aussi de l'engendrer. Et en fait, souvent, la parole prophétique va avoir cette puissance d'engendrer le futur. C'est-à-dire que la proclamation, si on dit « Dieu déclare qu'il va se passer telle chose », c'est une manière d'amener sur terre ce que Dieu veut réaliser. C'est une manière de permettre que ce que Dieu a prévu se réalise. Quand on voit dans Ézéchiel 37, il parle aux ossements. Les ossements desséchés, Et puis Ézéchiel dit pas bon ben voilà, vous en êtes là un peu sec, dommage pour vous. Il dit bon, il y a la vie, la vie va revenir. Non, il proclame, il dit reprenez vie. Et le prophétique est là aussi pour changer le futur, c'est-à-dire que là on voit vraiment qu'il y a, ça produit une action, le fait de déclarer la parole prophétique. Après, il y a le fait de changer l'image de soi aussi, parce que la parole prophétique va pouvoir parler sur l'identité des personnes. Quand on voit Jésus, il a transformé le nom de Simon, qui veut dire roseau brisé. Roseau brisé. Un roseau, c'est quand même pas très fort. S'il est brisé, il l'a transformé en pierre. Et là, on voit un changement d'identité énorme. Parce que bâtir une église sur un roseau brisé, c'était compliqué. Bâtir l'église sur pierre, qui dans son identité a été fermement appuyé sur Jésus-Christ et est rendu solide au travers de ce qu'il a, les étapes qu'il a traversées avec Jésus, là il y a une force, une fermeté dans l'identité. Et donc la parole prophétique, cette manière prophétique de Jésus de changer le nom, c'était finalement quelque chose qui a changé l'identité de Pierre. Il y a aussi un changement sur la vision qu'on a de notre destinée et tout simplement la révélation qui nous permet de voir avec la perspective de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu amène Abraham et à regarder et puis de lui dire vers le nord, vers l'est, l'ouest. Il dit « Je te donne tout ça ». Et je le donne à tes enfants. Et Abraham, il aurait pu être là, planter sa tente et continuer ailleurs, sans avoir prophétiquement la révélation de sa destinée et de la destinée de sa famille. Donc le prophétique vient là pour changer les destinées, parce que ayant dit cela, Dieu va le guider, Dieu va l'amener à faire des choix en fonction de cette destinée. On a déjà eu des versets dans le Nouveau Testament, mais Acte 13:2 nous dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là, dans le Nouveau Testament, on voit qu'au travers de la parole prophétique, il est reçu dans l'Église des directions pour les serviteurs. Comme à un autre moment où on a lu tout à l'heure, le Saint-Esprit vient dire « Non, on ne va pas ici, mais tu vas être amené à aller ailleurs. » Changer aussi le cœur. Et un point qui est un peu délicat dans le prophétique, c'est convaincre de péché. C'est délicat parce que j'introduisais en disant l'objectif est de tout faire dans l'amour. Donc on peut se dire c'est difficile de recevoir et de partager à quelqu'un qui est en train de vivre des choses qui sont mauvaises. Mais par amour, il nous faut au contraire apporter cet éclairage sur la vie de nos frères et sœurs. Mais là où c'est délicat, c'est la manière de le faire, le moment de le faire. Et j'en parlerai cet après-midi, de bien discerner de quelle manière Dieu veut que ce soit fait, dans chaque cas particulier, avec chaque personne particulière. Et c'est quelque chose que j'ose déconseiller à ceux qui sont, nouveaux dans la vie prophétique, de se lancer à partager des paroles compliquées comme ça. Parce que ça peut vraiment faire mal si c'est mal fait. Mais c'est quand même une réalité. Dans 1 Corinthiens 14, 25, on lit, si quelqu'un, verset 24, si un non-croyant vient, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. On a un passage là qui pourrait nous faire penser qu'il y a un non-croyant qui vient et qu'il y a des paroles qui vont parler de son péché. Finalement, même si ça arrive, c'est pas tout à fait ça, je pense, le sens du passage. Le sens, c'est surtout de parler de la sainteté de Dieu, de ce que Dieu veut qu'on vive, et que cette conviction de péché qui est l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne, c'est pas l'œuvre d'une personne qui va donner une parole prophétique. Finalement, la personne va être convaincue de péché en se rendant compte de la sainteté de Dieu et de ce que Dieu l'appelle à vivre et le décalage qu'il y a entre ce que Dieu appelle à vivre, donc on va parler positivement, et ce que la personne vit. Elle va intérioriser sa propre expérience et se rendre compte qu'elle est un peu à côté de la plaque. Alors bon, après j'avais des choses sur les termes grecs qui sont intéressants, mais bon. Et donc, la seconde 21 dit « Il est convaincu de péché par tous ». L'idée, c'est donc pas de dévoiler en public un non-croyant qui arrive et de dire « Oh là là, mon pauvre !»« Attendez, je vais prendre le micro, j'ai reçu que lui... » C'est pas la bonne manière de procéder. Mais ce qui compte, c'est dans le prophétique de révéler quels sont les standards de Dieu pour que chacun puisse se confronter à ces standards de Dieu, à cette sainteté, et de se laisser convaincre des choses qui ne sont pas alignées à ces standards, et donc d'être poussé à la repentance. Comme dit Romains 2, 4, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc, le prophétique, oui, est là aussi pour convaincre de péché, mais il y a la manière. Il y a encore deux dernières choses, et j'ai bientôt fini pour cette session, deux dernières choses que le prophétique va changer, c'est la relation. Le prophétique va changer, va réconcilier avec Dieu, va accroître l'intimité avec Dieu. Et on lit ça dans 2 Corinthiens 5, 17, 18 et 19. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère de la réconciliation qui est le ministère de tout chrétien, d'amener les non-croyants à se réconcilier avec Dieu, passe aussi par le prophétique qui va permettre de réconcilier les hommes à Dieu. Et aussi, on lit dans Malachie 4, 5, 6, « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » C'est-à-dire, cette partie du prophétique qu'on a là, c'est de réconcilier les hommes entre eux et de participer, par exemple, dans une situation de conflit, à comprendre quels sont les enjeux, à comprendre quelles sont les racines, peut-être spirituelles, avec le discernement des esprits, de qui peut avoir une influence qui fait que le conflit est là, par rapport à la parole de connaissance, de savoir qu'est-ce qui a pu se passer et vient impacter la situation de conflit. Donc le prophétique va être aussi là pour ramener les personnes les unes vers les autres, réconcilier les personnes les unes avec les autres. Et enfin, ça va aussi changer les choix qu'on va faire, parce que le but, c'est d'avancer avec Dieu, et il va nous donner des paroles pour nous guider, pour avoir des stratégies. La parole va nous donner des armes pour nous défendre contre les stratégies du diable. Dans 1 Timothée 1,18, on lit « La recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, d'après les prophéties que tu as reçues, tu combattes le bon combat. » Donc la parole prophétique va nous permettre d'avoir les armes et de savoir quel combat Dieu nous appelle à mener. Juste pour donner un court exemple, on a des amis à l'église clé qui ont à cœur le peuple musulman. Et Dieu leur a parlé, et Dieu les a équipés, et ils sont dans leur domaine avec... Dieu les envoie vers un public, on va dire, précis, les a équipés pour ça, prophétiquement, ils sont alignés avec ce qu'ils font. Oui, moi, si je croise un musulman, je suis amené, en tant que chrétien, à démontrer Christ et à lui témoigner. Mais certains vont être équipés spécifiquement pour être efficaces dans leur témoignage, dans ce qu'ils vont apporter. Donc, on va recevoir prophétiquement, chacun dans nos vies, des éléments qui vont nous permettre de combattre le bon combat. Et moi, si je dis, comme nos amis de l'église clé à Montpellier, si je dis, je vais faire une association et des réunions pour les musulmans, et puis on va aller faire bouger les choses, c'est pas mon appel. J'ai pas reçu d'éléments spécifiques pour ce combat-là. Alors oui, je participe quand je croise une personne musulmane à évangéliser. Mais je n'ai pas à prendre de mon temps de manière spécifique pour eux, parce que je suis appelé pour autre chose. Donc le prophétique va nous permettre d'être stratégique dans nos vies, à savoir on fait quoi, pour qui, avec quoi, et de cette manière-là, combattre le bon combat. Alors, des trucs que je trouve aussi amusants, c'est à quel point Dieu nous permet d'être stratégique. Quand on voit dans 2 Rois 6 ce qui se passe avec une armée qui est contre Israël, et à chaque fois, l'armée d'Israël va déjouer ce que les ennemis veulent faire. Et du coup, il y a un serviteur du roi ennemi qui vient dire « Oh mon Seigneur, Élisée le prophète » qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc là, il y a la parole de connaissance dans le prophétique qui est tellement précise que Dieu va nous parler, nous dire il se passe telle chose, et dans la stratégie, il va falloir faire des choix. Et Israël pouvait savoir ce que l'ennemi préparait et déjouer tous les pièges de l'ennemi, et c'est valable pour, on va dire, l'ennemi de nos âmes qui est le diable, et toutes ces stratégies pour nous empêcher d'être en relation avec Dieu, pour nous empêcher d'être actifs dans les combats que Dieu nous demande. Donc, la parole prophétique nous donne des stratégies pour nos vies, et également pour les développements des œuvres qu'on fait pour Dieu. Et changer aussi les choix par rapport au fait d'être guidé. Comme je disais, Dieu qui va dire à Paul, va pas ici, va de l'autre côté. Et puis, on a un autre exemple encore, dans Actes 9, verset 10. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Un disciple. Il n'était pas apôtre, c'était un disciple, comme vous et nous. Et le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, un peu plus loin, lève-toi, va dans la rue, qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Alors là, il n'y a pas plus précis comme parole prophétique pour savoir ce qu'il faut faire. Et ça peut arriver, et on prie pour que de plus en plus, Dieu donne des choses aussi précises que ça. Et ça arrive... pour ceux qui connaissent un peu le principe de la chasse au trésor dans certaines églises où on veut aller dans la rue pour apporter des bénédictions, même si l'objectif est de faire en sorte que les gens rencontrent le Christ. La première chose, c'est d'aller apporter de l'amour, comme on en parlait hier avec ma mère, le fait d'aller faire des câlins dans la rue, ça peut être prophétique. C'est chasse au trésor où on prend un temps de prière, et ça m'était arrivé il y a quelque temps quand on avait fait ça à notre église à Montpellier, et on reçoit des éléments qui vont nous permettre d'aller vers la bonne personne et de lui dire les bonnes choses. Et ce qui permet juste d'apporter une bénédiction, et même si on aimerait tous amener la personne à Christ, au moins qu'elle ait une expérience de « Oula, il s'est passé un truc, et puis j'ai eu le témoignage de chrétiens », et voilà, ça peut être une pierre dans leur parcours vers la foi. Et j'aimerais rajouter le verset de Actes 15, 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et là, il y a l'aspect de s'accorder avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous dit quelque chose, il y a comme un dialogue avec le Saint-Esprit, et on s'accorde avec lui. On est d'accord avec lui, on travaille main dans la main pour la même œuvre, dans la même direction, en sachant comment faire. Et cet aspect d'être à l'écoute et obéissant à ce que l'Esprit va dire, qui permet de marcher main dans la main avec Dieu. Alors le dernier point, avant de vous passer une petite vidéo et de peut-être prendre un petit temps de discussion en petit groupe, même si là j'ai déjà débordé. Qui peut agir dans le prophétique? Très rapidement, parce que je pense que j'en ai assez parlé. Rechercher l'amour. Aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie, dit 1 Corinthiens 14, 1. Tout le monde doit aimer, rechercher l'amour, tout le monde doit aimer. Aspirer aux dons professionnels, aux dons spirituels, tout le monde doit rechercher les dons. Et surtout à la prophétie, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Mais Paul encourage beaucoup à ce qu'on puisse être dans cette dynamique prophétique. J'avais déjà parlé de nombre 11, 29, où des personnes prophétisent, les anciens prophétisent, après que Moïse ait demandé à Dieu d'avoir de l'aide et que d'autres soient aussi investis de ce don-là. Et Moïse, qui va dire, « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et c'était déjà, lui, il avait compris déjà que c'était le cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il savait déjà que c'était le cœur de Dieu. Que tout le peuple soit composé de prophètes. Que tous puissent prophétiser. Dans 1 Corinthiens 14, on y revient parce que c'est quand même un passage très important sur la vie prophétique. En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. On l'a lu tout à l'heure, mais je reviens sur des versets parce qu'il y a à chaque fois des mots qui sont très importants qui nous permettent de tirer un enseignement complet. 1 Corinthiens 14, que je redis ici au verset 31, « En effet, vous pouvez tous prophétiser. » Il n'est pas dit que dans Actes 2, 18, sur mes serviteurs, sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Le texte ne dit pas « ils seront prophètes ». Le texte dit « ils prophétiseront ». Ça veut dire qu'il y a une différence entre, on en parlera cet après-midi, prophétiser et être prophète. Et ce que la parole nous dit, c'est que tous peuvent prophétiser. Et c'est une dimension à laquelle on est appelé. Dennis Kramer, qui est un pasteur américain aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vous pouvez tous prophétiser », que je vous recommande. D'ailleurs, je l'ai peut-être... Non, je n'avais pas emmené. Il dit cela, « Le jour où Dieu suscitait un Moïse, son passé, Aujourd'hui, Dieu fait lever un peuple, une armée de croyants, équipés pour prophétiser et se servir les uns les autres. Je voudrais conclure cette session juste voilà, en résumant que le prophétique, ça a commencé avec Adam et ça finira quand on sera tous auprès de Dieu, puisque là, il n'y aura plus besoin que quelqu'un transmette une parole de Dieu, on vivra avec lui. Et en attendant, nous sommes dedans, nous sommes invités vraiment de manière forte à le vivre, à le pratiquer, à le comprendre, à saisir les règles, puisqu'il y en a, on en parlera cet après-midi, qui définissent la manière de vivre dans le prophétique. Et c'est pour tout croyant, pour avoir tout un panel d'outils surnaturels qui permettent de faire avancer le royaume de Dieu et d'être les témoins, le sel, la lumière que Dieu nous appelle à être. Si on va passer une petite vidéo d'un... Alors c'est très mal filmé, la qualité n'est pas bonne, si en anglais c'est sous-titré, mais c'est pour démontrer comment ça peut être vécu d'une manière simple, mais efficace pour aider les gens qu'on peut rencontrer. Karel, si tu peux bien.